Stephenson. 01 45 24 7000. Vos questions, vos réactions sur franceinter.com.
Bonsoir, nous sommes 15 millions de Français à passer chaque année par l'hôpital. Nous avons été ou nous serons tous hospitalisés au moins une fois dans notre vie et nous sommes pratiquement tous d'accord dans toutes les enquêtes d'opinion pour nous dire satisfaits dans une énorme majorité du travail, du dévouement et de la compétence des personnels soignants, pas seulement d'ailleurs les médecins, mais aussi bien sûr les infirmières. Nous savons également tous que, d'après l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, le système de santé français demeure, en tout cas reste considéré comme l'un des meilleurs du monde. Mais d'un autre côté, l'hôpital, et on le sait aussi tous, ce sont souvent des urgences débordées, un manque notoire de lits, une pénurie de personnel par endroit. Et puis, et vous êtes un certain nombre, on vous entendra tout à l'heure à en parler ce soir, ce que vous appelez des inégalités géographiques ou des accès plus ou moins faciles aux services les plus performants, sans parler du coût de l'hôpital et de son fonctionnement qui va en s'alourdissant du simple fait des progrès de la médecine et de l'allongement de la durée de vie. Une réforme est donc à l'étude, elle a été présentée à la fin de la semaine dernière, elle concerne tout à la fois l'urgence, les soins, le fonctionnement de l'hôpital, son financement, la répartition géographique des établissements. Elle est pour l'essentiel inspirée par le travail, le long travail effectué par le sénateur UMP et ancien ministre du Travail Gérard Larcher, qui est en direct avec nous ce soir pour répondre à vos questions et aussi pour dialoguer avec les deux interlocuteurs que nous aurons en direct au téléphone durant l'émission avec Hélène Cardin. D'une part, Jean-Loup Durousset, qui est déjà au bout du fil, qui préside la Fédération de l'hospitalisation privée. Et puis, dans un second temps, Martin Malvy, qui préside la région Midi-Pyrénées, mais qui préside également l'Association des Petites Villes de France.
Le téléphone sonne.
Pierre, bonsoir, vous êtes à Dunkerque, bienvenue au téléphone sonne.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Ben, ma question est toute simple, c'est que à la suite de nombreuses fermetures de lits, notre maire, Michel Delbar, a signé un accord transfrontalier qui fait que, à cause du manque de places en moyen séjour, on va devoir aller se faire soigner en Belgique. Voilà, nous, ça provoque le désarroi et la colère des patients, puisque, à la date d'aujourd'hui, que cet accord est applicable depuis le mois de mars, on n'a pas encore demandé l'avis du patient et de la famille. Donc je crains encore que la nouvelle réforme qui est en vue va encore aggraver ce processus, puisque notre hôpital a déjà, l'hôpital où je suis administrateur représentant des usagers, a déjà 12 millions d'euros. Et donc nous, on nous dit que le système français est le meilleur et on nous enverrait nous faire soigner en Belgique.
Gérard Larcher.
D'abord, bonsoir Alain Bédoué, bonsoir Hélène Cardin et bonsoir à tous les auditeurs de France Inter. Moi j'entends bien Jean-Pierre. Il illustre parfaitement un des problèmes que nous avons. Nous manquons, j'allais dire, de soins de suite et de réadaptation. Et l'exemple des moyens séjours qu'il donne, c'est bien un des déficits français, qui est un bon système de santé, qui sait parfaitement soigner l'aigu, mais qui a un problème dans le parcours du patient, j'allais dire, quel que soit son âge. Et nous avons besoin de ces soins de suite et de réadaptation. Nous avons un déficit qui est de 3 fois moins de place que l'Allemagne, par exemple. Voilà pourquoi nous proposons que chacun des établissements hospitaliers dans la communauté hospitalière de territoire ait un rôle et une complémentarité à jouer. Voilà pourquoi nous proposons dans ce rapport, et c'est le fruit d'un travail avec les usagers, puisque Jean-Pierre représente les usagers, nous avons beaucoup travaillé avec Nicolas Brun et le collectif des usagers autour du parcours de soins du patient, au point que ce parcours de soins, après les soins aigus, qui va être proposé aux patients, l'accompagnement, la préparation au retour à domicile ou en maison, j'allais dire adaptée, notamment il parle du moyen séjour, fera partie de l'évaluation des pratiques médicales. C'est donc un vrai sujet et de vraies réponses.
Courriel de Mathilde à Levallois, infirmière à la paix, l'assistance publique depuis 16 ans. Je sais à quel point l'hôpital coûte cher, c'est la condition d'une bonne politique de soins. Je ne suis pas a priori contre l'idée de faire des économies, mais enfin, en quoi, écrit Mathilde de Levallois, cette nouvelle réforme peut-elle effectivement permettre de dépenser moins? J'ai beaucoup de questions en ce sens-là. Les gens sont conscients qu'effectivement, on parle du trou de la sécurité sociale, la santé ça a un prix et tout le monde revendique une meilleure santé, un meilleur accès aux soins, mais effectivement, comment va-t-on faire des économies sans pour autant léser ceux et celles qui nous écoutent, les patients potentiels, monsieur Larcher?
En nous donnant la mission, le président de la République et le Premier ministre ne nous ont pas demandé de faire œuvre d'audit comptable. Mais d'abord, de répondre à deux questions. Comment on répond avec qualité et avec égalité aux besoins de santé des Français? Par contre, l'efficacité de l'hôpital aura une conséquence financière positive, car je pense qu'aujourd'hui, nous n'utilisons pas au mieux un certain nombre de moyens. On sait que depuis 15 ans, quelle que soit, j'allais dire, la sensibilité des gouvernements et des majorités, on met chaque année deux fois plus dans la santé que dans la croissance économique, dans la croissance de la richesse. Eh bien, nous nous disons à un moment où l'argent se fait parfois plus rare, qu'il faut rechercher l'efficacité à la condition qu'elle soit d'une efficacité d'abord médicale.
Jean-Loup Durousset, avant qu'Hélène Cardin intervienne, vous êtes au bout du fil, je vous ai présenté il y a 3 minutes, merci d'être là. Vous présidez, je le rappelle, la Fédération de l'hospitalisation privée, vous vouliez intervenir, je vous en prie.
Oui, bonjour à
bonjour.
Tous. Oui, je voulais simplement intervenir sur la notion du coût hospitalier. C'est
oui.
Vrai qu'aujourd'hui, l'hospitalisation publique et privée font partie du dispositif de soins, et on a apprécié d'ailleurs que dans le rapport Larcher, Gérard Larcher mentionne bien que les établissements privés devraient participer aux missions de service public.
Voilà, que c'est complémentaire en quelque sorte.
Voilà, hein, c'est complémentaire. Et je voulais dire à notre auditrice qui parlait du coût que le paradoxe en France, c'est que l'hospitalisation privée coûte moins cher que l'hospitalisation publique au niveau de la collectivité, et que sans doute là, il y a quelques synergies à trouver pour expliquer comment un établissement privé peut arriver à sortir des coûts inférieurs à l'hôpital public pour essayer de retrouver l'efficacité collective.
Monsieur Larcher, est-ce aussi simple à entendre Monsieur Durousset?
En tous les cas, en saluant le président Durousset, je voudrais dire que notre état d'esprit, c'est que l'hospitalisation privée, quel qu'en soit le statut, avec ou sans but lucratif, naturellement joue déjà un rôle dans le service public de santé. Et que nous entendons par les nouveaux contrats de service public aussi qu'on partage la permanence des soins, l'accueil des urgences, l'accueil des CMU, que nous négocions ensemble le secteur conventionné. Et le président Durousset sait combien ceci est important pour nombre de Français. À un moment, on parle de pouvoir d'achat. Le président de la République a pour préoccupation qu'il y ait des soins, et notamment des soins de spécialité, accessibles à tous les Français. Or, je connais des régions de France où certaines spécialités ne sont accessibles que par honoraires libres. Et c'est une vraie interrogation. Et nous avons souhaité y répondre, non pas en opposant les systèmes. Il y a des synergies à trouver. L'hospitalisation privée nous montre le chemin dans un certain nombre de modes de gestion. Voilà pourquoi nous proposons aussi de faire évoluer le statut de l'hôpital public. Voilà pourquoi nous pensons qu'il ne doit pas y avoir de frontières étanches entre les uns et les autres. Nous avons besoin des uns des autres, comme nous avons besoin de la médecine de ville, de la médecine libérale et des paramédicaux. Alain Bédoué disait tout à l'heure, il y a certes les médecins, mais pensons aux infirmières, aux aides-soignantes, au rôle des paramédicaux tout à fait essentiel.
Hélène Cardin.
Gérard Larcher, est-ce que vous voulez bien expliquer à nos auditeurs, simplement, parce que c'est simple, la pyramide que vous avez conçue pour réformer les structures hospitalières en France?
On part d'un territoire, on va prendre la région. Dans chaque région, en général, il y a un centre hospitalo-universitaire qui est un centre de référence.
Le CHU, en haut là.
Et puis, il y a des hôpitaux et des cliniques sur le territoire. Elles ont, pour certaines, une activité chirurgicale, d'autres une activité médicale, obstétricale, et certaines ont des plateaux techniques qui sont des lieux de référence. Eh bien, nous proposons de faire pour l'hôpital public des communautés hospitalières de territoire autour, j'allais dire, de l'établissement de référence. Sans oublier les hôpitaux locaux. Les établissements spécialisés qui accueillent aujourd'hui les personnes âgées, les personnes handicapées, ou ces fameux soins de suite et de réadaptation dont nous avons tant besoin. Et au lieu que chacun soit tout seul dans son coin, on les fait travailler ensemble, comme on fait aujourd'hui travailler des communes ensemble, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Et au lieu de se faire concurrence, eh bien, l'équipe médicale, par exemple, de l'hôpital de référence, elle viendra faire des consultations avancées qui n'existent plus souvent aujourd'hui à l'hôpital local. Et on aura ainsi cette complémentarité, une architecture toute simple, des établissements de référence, et puis, là où c'est nécessaire pour répondre aux besoins de santé, des conventions de services publics avec l'hospitalisation privée. L'idée de travailler ensemble pour répondre aux besoins de santé des Français. Voilà, Hélène Cardin, une structure plutôt simple, où, j'allais dire, au lieu d'être chacun dans son coin, on essaye de travailler ensemble.
Coralie, vous êtes à Rennes pour votre part. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Coralie.
Alors, j'avais une question concernant un des futurs acteurs issus de votre réforme, à savoir l'Agence régionale de santé, pardon.
Oui.
Je voulais savoir, bon, parfois c'est un acteur qui est présenté un petit peu comme un remède miracle. Donc, je voulais savoir que peut faire l'ARS en ce qui concerne la question de la permanence des soins et de la réduction des inégalités de santé entre les territoires.
L'agence régionale, Monsieur Larcher.
Je ne crois pas au remède miracle, mais c'est sans doute mon origine vétérinaire qui fait que chacun des remèdes est un élément de la guérison. L'agence régionale de santé, ça va être le lieu où l'ensemble de la politique de santé va être vue. Aujourd'hui, on voit d'un côté la médecine de ville, de l'autre côté la médecine hospitalière. Tout ça, on va le voir ensemble. Mais l'Agence régionale de santé ne fera rien si elle ne travaille pas en liaison avec les professionnels de santé du territoire, avec les usagers du territoire, avec les élus, qui sont les premiers représentants d'ailleurs des usagers dans ces territoires. Et c'est ensemble que par territoire de santé, ils vont définir la réponse aux besoins de santé. Donc, l'ARS, c'est pas un remède miracle, mais c'est un acteur qui va essayer de faire jouer en symphonie ce qui est parfois en cacophonie sur le territoire.
Jean-Loup Durosset, vous vouliez la parole, je vous en prie.
Oui, juste une réaction pour dire qu'en ce qui concerne le parc hospitalier, nous avons déjà été heureux de voir la création des ARH, des agences régionales d'hospitalisation, mais clairement, il manquait deux éléments clés à cette constitution, qui était la présence des médecins de ville ou des médecins libéraux exerçant même dans les établissements privés et les établissements médico-sociaux. Donc je pense qu'avec les ARS, on va compléter le dispositif qui va l'améliorer. Et chacun pourra à ce moment-là trouver la solution sur le territoire donné pour répondre aux besoins de la population.
Donc là encore, si je comprends bien, cette idée de complémentarité qu'on évoquait tout à l'heure. Éric, bonsoir, vous êtes en direct, je crois, à Fayence.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, on vous écoute.
J'avais une question à poser pour savoir comment ça se passait chez nos voisins européens, mais j'avais quand même un petit commentaire à faire. On a vraiment l'impression que toutes les soi-disant réformes qui sont faites à l'heure actuelle, elles sont faites dans un sens, c'est-à-dire que ceux qui ont les moyens, ben, ça changera pas grand-chose. Par contre, pour ce qui concerne les plus pauvres, les plus anciens, moi j'habite à la campagne, il n'y a pas un hôpital à moins de 40 kilomètres ici, et si une personne âgée a des problèmes, elle va rester avec ses problèmes. Enfin, ma question était pour savoir qu'est-ce qu'il en est des hôpitaux de proximité publique chez nos voisins européens.
Et ben, je vous propose de répondre aux deux, parce que la première question, j'en ai beaucoup d'internautes en tout cas qui la posent, par exemple Laurent dans la Drôme, avec d'autres mots, ça revient au même, il nous écrit « Je crains quand même que de plus en plus nous ayons une santé, et notamment un hôpital à deux vitesses, excellence de soins et traitement de pointe pour notamment les habitants des grandes villes, bien assurés, bien informés, parce qu'il faut être informé, et puis pour les autres, le tout venant, un hôpital au rabais. » Alors, cet aspect-là des choses, on va pas occulter la question, et puis ensuite, on parlera peut-être des comparaisons entre la pyramide telle qu'on l'évoquait tout à l'heure, le CHU, et puis les hôpitaux de proximité chez nos voisins belges, allemands, britanniques, etc. Mais d'abord, cet hôpital à deux vitesses, monsieur Larcher.
Alain Bédoué, pour répondre à Eric, je vais dire, malheureusement, l'hôpital, aujourd'hui, est parfois à deux vitesses, déjà. Mmh. Il est à deux vitesses, pourquoi ? Qu'est-ce qui restructure l'offre de soins ? C'est la démographie médicale. Est-ce que j'ai encore des équipes chirurgicales ? Hélène Cardin le sait parfaitement. Est-ce que ces équipes chirurgicales sont cohérentes, ont l'habitude de travailler ensemble? Derrière l'équipe chirurgicale, c'est l'équipe d'anesthésie-réanimation, c'est l'équipe d'imagerie médicale, donc les radiologues. Est-ce que j'ai la capacité de mettre en place cette équipe? Eh bien, comme l'équipe n'existe plus, en fait, sans le dire, eh bien, il n'y a plus l'activité ou cette activité est de mauvaise qualité. Et c'est bien pour remédier à cette espèce de subi et être plutôt des acteurs du maintien d'une médecine et d'une chirurgie de qualité sur le territoire, que nous pensons qu'il faut agir à partir de la communauté hospitalière de territoire. Et puis je veux dire la vérité, Les équipes chirurgicales qui font très peu souvent, par exemple, d'intervention sur la carotide, sur le cancer du rectum, sur un certain nombre d'interventions, les résultats sont du simple au triple, quand ça n'est pas plus. Et le professeur Guy Valencien l'a très bien montré dans son rapport. Moi-même, était préoccupé de ce qui se passait en Allemagne, puisqu'on nous demandait des comparaisons internationales. Chacun sait qu'il faut que les équipes interviennent suffisamment. Il en est de même dans les maternités,
bien sûr,
sur le problème notamment de la césarienne. Nous voyons bien qu'un certain nombre de petites maternités, et quel que soit le dévouement des équipes, les compétences recourent, alors que ce sont des maternités, pardonnez le jargon, de niveau 1, donc ils font les grossesses sans difficulté, avec des taux de césarienne qui sont parfois deux fois supérieurs à des maternités de niveau 3 par rapport, j'allais dire, au même cas des futures mamans.
Christine, vous êtes dans le Limousin, vous êtes médecin, je crois. Bonsoir, Christine.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, moi, c'était pas tellement des questions. Je vais me montrer très polémiste.
Allez-y, allez-y.
Donc, je pense que la médecine française et la sécurité sociale souffrent d'un mal assez important parce que les médecins ont perdu leur activité de relations humaines et ne deviennent que des prescripteurs de soins, d'examens complémentaires ou des spécialistes.
Oui.
Et moi, je suis du côté des spécialistes et je vois arriver des gens qui n'ont rien à faire dans ma structure parce que on ne leur a pas parlé. On leur prescrit des examens qui n'ont aucune raison d'être parce que on n'a pas envie de leur expliquer que ça ne sert à rien, qu'il faut attendre un petit peu puis que ça va passer.
Mmh.
D'autre part, je voulais parler de l'effet pervers de la T2A dans les structures hospitalières.
Alors, on va en parler, mais simplement, aidez-nous pour ceux qui ne sont pas comme vous, spécialistes ou médecins. La T2A, comment peut-on traduire cela, Christine?
Ben, c'est la tarification à l'activité des hôpitaux.
D'accord.
Et ce qui fait que, par exemple, alors, Monsieur Larcher parlait des radiologues, je suis radiologue, et on en arrive dans les services hospitaliers à avoir intérêt à faire sortir les patients pour leur faire leur examen, parce que quand on le fait dans le cadre de l'hospitalisation, ça n'apparaît pas dans la T2A, alors que si on fait le même patient en externe, ça nous fait une activité supplémentaire. Ce qui fait qu'on est en train d'orienter des structures hospitalières à faire des patients externes dans de mauvaises conditions.
Gérard Larcher vous répond.
Oh, sur l'activité de relations humaines, nous touchons là à un des points sur lesquels nous sommes penchés, qui est la formation médicale, qui est d'ailleurs un vrai sujet, puisque Christine est médecin. Nous avons aujourd'hui des difficultés dans certaines spécialités à former à l'hôpital public. Je pense à la chirurgie de la main, par exemple, où nous manquons d'équipes publiques, parce que la formation chirurgicale, c'est une formation de compagnonnage. Et donc, la nécessité pour avoir la patte chirurgicale d'être formé dans des équipes qui interviennent assez. Et puis, l'exemple de l'Auvergne le montre ô combien, dans une région qui est celui le département de la Haute-Loire, j'ai une ville qui, dans 2 ou 3 ans, n'aura peut-être plus de radiologue public. Et donc, ça me pose, à moi, un certain nombre d'interrogations sur le maintien du service public. Ce que vise Christine, c'est aussi la nomenclature. Nous avons, depuis 10 ans, j'allais dire surtarifer les actes techniques au détriment des actes intellectuels ou des gestes chirurgicaux. Et on est une espèce de déplacement où on recherche la meilleure tarification des actes techniques. C'est une des questions qui sera posée à l'assurance maladie. Nous l'abordons dans ce rapport.
Jean-Loup Durosset, avant qu'Hélène Cardin intervienne, vous vouliez la parole.
Sur la tarification à l'activité, je voulais juste dire à notre auditrice qu'effectivement la tarification à l'activité est une forfaitisation pour un acte. Mais elle a l'avantage pour l'instant de mettre de la transparence dans la rémunération des établissements publics ou privés. Ça permet de définir pour un acte donné un coût pour la collectivité et de mesurer l'activité de chacun des établissements. Aujourd'hui, on le sait, les activités de soins d'un établissement à l'autre varient énormément. Et ça permet de raisonner tout à fait correctement sur telle ou telle spécialité ou telle ou telle activité, mais aussi sur le coût de telle ou telle activité pour la collectivité. Ça a mis énormément de transparence entre l'hôpital public et la clinique privée. On a du travail encore à faire sur les incitations éventuellement à traiter tel ou tel patient en ambulatoire ou en hospitalisation complète. Mais je crois que dans l'espace de 2 ans, le progrès lié à la tarification et à l'activité entre les établissements publics et privés est très important.
Monsieur Larcher.
Oui, la T2A, nous avons considéré que c'était un mode de tarification qui était intéressant. Encore faut-il qu'à convergence des tarifs, nous ayons convergence des contraintes. Voilà pourquoi nous pensons en matière de services publics hospitaliers, il faudra bien que les contraintes soient partagées par tous les modes d'organisation et les modes de réponse des établissements concourant à l'hospitalisation.
Alors moi j'ai 2 petites questions à vous poser. De tout votre rapport, qu'est-ce qui va être mis en œuvre vraiment ?
Écoutez, le président de la République à Neufchâteau, il a parlé d'un sujet qui nous tient très à cœur, c'est la permanence des soins et le rôle du 15, du parcours du patient. Vous savez, je voudrais dire, c'est du concret pour les auditeurs de France Inter.
Bien
sûr. Quand vous avez votre conjoint qui a fait un accident vasculaire cérébral et que vous êtes à la fin de son hospitalisation et que le conjoint se retrouve seul pour savoir comment il assure en fait la rééducation, l'orthophonie, la suite. Mmh. C'est ça que nous voulons changer dans le parcours du patient. Ça, c'est du concret. C'est la vie des habitants de Rambouillet comme de ceux de la Drôme ou du Puy-en-Velay. C'est ça le concret. Alors, je pense que le président de la République a retenu cette vie quotidienne, d'abord, parce que il y est attaché comme le Premier ministre. La deuxième des choses, les communautés hospitalières de territoire, la transformation du statut de l'hôpital, la possibilité de contrats de service public assuré par le privé, et l'évolution du statut des praticiens.
Et il a retenu aussi, le président de la République, un patron pour l'hôpital. Et c'est plus directement le maire qui devient directeur du conseil d'administration. Vous avez dû vous faire beaucoup d'ennemis, là, auprès des maires.
Le maire va être président du conseil de surveillance, ou les élus vont être présidents des conseils de surveillance. Puisque vous parlez territoire, nous aurons un mode d'organisation un peu comparable. Et donc, des élus au conseil de surveillance, ce sera l'objet d'ailleurs de débats parlementaires, un directeur, président du directoire, avec à ses côtés, comme vice-président du directoire, le président des médecins, le président de ce qu'on appelle la commission médicale d'établissement. Parce que vous savez, au fronton de notre rapport, il y a le mot malade. Pour soigner des malades, il faut des médecins et du personnel soignant. Mais pour que tout ça ait de l'efficacité, il faut un corps de direction et d'administration. C'est cette synthèse que nous voulons faire.
Marité à Paris, bonsoir, bienvenue Marité.
Bonsoir. J'ai pris cet après-midi rendez-vous pour une IRM à l'hôpital 15-20 et on m'a donné le choix entre deux possibilités. Soit c'était le secteur public et j'avais un rendez-vous au plus tôt fin juin et il fallait que j'envoie un dossier administratif, faire des photocopies avec mon numéro de téléphone, plein d'informations et on me rappellerait pour me donner un rendez-vous. Ou bien je passais par le secteur privé, j'ai un rendez-vous le 14 mai et tout se fait par téléphone et on me demande rien.
Voilà, exemple, oui. Alors, je vous en prie, poursuivez, oui.
J'aimerais bien comprendre pourquoi, dans un cas, je peux avoir un rendez-vous le 14 mai, sans aucune formalité administrative. Dans l'autre cas, je peux avoir un rendez-vous fin juin, avec beaucoup de formalités administratives, et à aucun moment, on n'a fait état de l'urgence, du besoin ou pas.
Monsieur Larcher, un exemple concret.
C'est bien un sujet que nous abordons. Parce que la notion de service public, elle n'est pas que la liberté soit inégale dans le choix du mode d'accès aux soins. Or, la liberté aujourd'hui est inégale. Et donc, voilà pourquoi nous prévoyons que le secteur conventionné, il y ait une réponse adaptée aux besoins de santé dans les territoires. Voilà pourquoi nous proposons aussi, de manière optionnelle, à ce que les praticiens hospitaliers soit rémunéré à l'acte, car il y a aussi des questions de rémunération. Et ça n'est pas illégitime quand la différence de rémunération entre un radiologue qui n'exerce dans le public et un radiologue qui exerce dans le privé est du simple au triple. Vous pouvez aussi comprendre que quelqu'un qui a fait Bac plus 16 ait un certain nombre d'attentes, d'exigences qui ne sont pas illégitimes. Nous, on nous a commandé de répondre avec qualité et égalité aux besoins de santé des Français. Voilà pourquoi nous pensons que le secteur conventionné ne peut pas être la peau de chagrin. Et Marité nous décrit, c'est d'ailleurs pas un hôpital public, mais un hôpital concourant au service public, un PSPH, mais qui a l'esprit de service public, comme l'ont un certain nombre d'ailleurs aussi d'établissements privés. Eh bien, vous voyez bien qu'il faut apporter là des vraies réponses pour pas que, finalement, un système à 2 vitesses ne se mette en place.
France Inter, le téléphone sonne, Alain Bédoux.
We'll be right back. Alors, on en parlait déjà tout à l'heure, mais j'ai toujours beaucoup de courriels là-dessus. La fermeture de ces hôpitaux dits de proximité, ça tombe bien. Je crois que Martin Malvy, qui, je le rappelle, préside à la fois la région Midi-Pyrénées, mais aussi l'association des petites villes de France, nous a rejoint. Alors, je peux citer Étienne, Amande, à supposer, parce que effectivement, on évoquait ça tout à l'heure, je précise ça pour Monsieur Malvy, à supposer qu'il y ait suffisamment d'actes effectués pour que la sécurité sanitaire soit remplie. Pourquoi, malgré tout, fermer tant de petits hôpitaux dont nous avons vraiment besoin, nous, en zone rurale? Et Étienne ajoute, il y a déjà la poste, les perceptions, les tribunaux, les petites lignes de chemin de fer. Maintenant, les hôpitaux, nous ne sommes plus vraiment égaux dans nos droits. Et ça, vraiment, j'ai beaucoup de fiches là-dessus. Et des gens qui, encore une fois, sont de bonne foi et qui, certains disent, moi, effectivement, pour une opération grave, je comprends bien qu'il faille faire 60 kilomètres. Mais mon petit hôpital... Eh bien, je peux en avoir besoin quand même. Monsieur Larcher ?
Ils ont raison. Ils ont besoin d'un petit hôpital et d'un hôpital qui soit, j'allais dire, souvent remédicalisé par rapport à la situation actuelle, où il y ait des consultations de spécialistes, où on accompagne les mamans ou les futures mamans pendant la grossesse ou après l'accouchement. Et puis, il y aura des territoires où il faudra qu'il y ait présent de vraies équipes. Mais j'insiste. Le mode de pratique aujourd'hui d'exercice médical avec les projets et les progrès technologiques, c'est l'équipe. Le chirurgien isolé, omnipraticien que nous avons connu il y a 20 ou 30 ans, qui passait 80 heures par semaine dans son établissement, c'est un modèle qui n'existera plus. Et d'ailleurs, je crois qu'il ne peut plus exister quand Guy Valencien développe avec d'autres chirurgiens, j'allais dire ce principe, je crois qu'il dit tout simplement la vérité. Et plutôt que de subir, et je sais que le président Malvy est très attentif et aux petites villes et aux territoires, plutôt que de subir, je propose qu'à partir du territoire, on décide d'agir.
Monsieur Malvy, merci de nous avoir rejoint au téléphone. Vous vouliez justement intervenir sur ce plan.
Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à Monsieur Larcher. Bonjour. Moi, je dirais très fréquemment, il y a dans le rapport de Monsieur Larcher une certaine dose de bon sens, donc je ne vais pas entrer en opposition frontale. Par contre, ce que disent les auditeurs est aussi exact. Bien sûr. Les tribunaux supprimés, les 220 tribunaux supprimés ont été supprimés dans les petites villes. Moi, je préside l'association des petites villes de France, c'est moins de 20 000 habitants. On a pris de plein fouet la suppression de tous les hôpitaux. Or, il y a du vrai dans le rapport, à savoir que le rapport, il parle d'un certain nombre de problèmes qui sont exacts. La démographie médicale, on va manquer de médecins, c'est exact. D'un certain nombre de charges. Le fait que les médecins veulent travailler différemment. Si il est exact, mon association le plaide depuis 10 ans, qu'il faut développer les coopérations interhospitalières. Si je ne suis pas opposé, j'en donne d'ailleurs l'exemple à titre personnel, à des rapprochements hôpitaux publics, cliniques privées. Bon, ceci étant, le risque est fort, et quand je lis certaines déclarations, je vois que les hospitalo-centristes entrent de plein pied dans le rapport Larcher, en disant, je lis des commentaires, en disant, ça n'est pas parce qu'un village n'aura plus d'hôpital, il n'y a jamais eu d'hôpitaux dans les villages, c'est pas sérieux. Ou quand je lis, le président de la République est allé à Neuchâteau, quand je lis dans la presse, petite bourgade de 8000 habitants. On voit bien l'approche que font certains du débat. Mmh. Et là, il y a un risque majeur, je le dis à Monsieur Larcher, il y a un risque majeur, et ça n'est pas, alors là nous sommes en désaccord, ça n'est pas parce qu'on transformera un hôpital en centre de médecine ou de gériatrie qu'on réglera le problème de la proximité. On ne peut pas, et moi je le demande au président de la République solennellement, au nom de l'association des petites villes, si vous voulez développer la sécurité hospitalière, la qualité de l'offre de soins, vous devez, dans les critères de qualité et de sécurité, vous devez inclure la proximité. Vous ne pouvez pas balayer la proximité, car elle est indispensable à la qualité de l'offre de soins, et encore plus d'ailleurs demain que qu'aujourd'hui.
Une réaction, Monsieur Larcher,
mais
qui vient d'être
dit par
Monsieur
Malvy. Je crois, comme le président Malvy, qu'il ne faut pas opposer qualité et proximité. Mais je dois dire que la qualité doit être notre fil guide. Par exemple, accident vasculaire cérébral. Nous ne sommes pas très bons en France.
Non, nous ne sommes pas très bons.
Pays d'Europe.
Il y a deux, trois équipes qui marchent bien, c'est tout.
Une partie des premiers soins doit se faire dans la proximité.
Oui.
Et nous pensons que là, il faut faire un mouvement vers la proximité pour atteindre la qualité. Et je crois que là-dessus, nous faisons des propositions. Mais, monsieur le Président, qu'est-ce qui va se passer si les préconisations de notre rapport enrichissent des débats parlementaires? Je ne doute pas que les parlementaires seront particulièrement attentifs à l'Assemblée nationale ou au Sénat à la notion de territoire. Et moi-même, je suis très attaché à la notion de territoire. Fabrice Marquiol, qui a été un des élus et qui a eu l'expérience de Namur, a été très très attentif tout au long du rapport à cette notion. Je crois qu'il faut qu'ensemble, on trouve ce point d'équilibre qui n'est plus un point d'opposition entre proximité et qualité, faisant de la qualité et de la sécurité notre maître mot, mais pas l'alibi, parce qu'au contraire, nous devons aussi avoir un maillage hospitalier sur le territoire.
Bonsoir Pierre, vous êtes au Creusot et maintenant sur l'antenne de France Inter. Nous vous écoutons attentivement.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Je voudrais demander à vos invités, en particulier à M. Larcher, s'il ne pense pas qu'en préalable de la réorganisation hospitalière, il eût fallu revoir le statut de l'hôpital, parce que compte tenu des enjeux nationaux, en termes de qualité de soins, mais aussi en termes de financement, comment confier les décisions stratégiques aux élus, et aux maires en particulier qui président des conseils d'administration, eu égard à des décisions d'adhésion à des communautés hospitalières qui forcément... pour les petits établissements, va être précessif par rapport à leur activité actuelle, et comment leur confier ça, alors même qu'ils sont élus, qu'ils n'ont pas été élus pour précisément aller vers cette récession.
Monsieur Larcher.
Ah, je pense tout au contraire que bon nombre d'élus se préoccupent d'abord de la qualité des soins qui sont dispensés sur leur territoire. Moi-même, je préside un conseil d'administration, nous avons mis en réseau des hôpitaux locaux avec des maires... de communes moins importantes que la ville de Rambouillet, et qui sont notamment des hôpitaux locaux du secteur rural de l'extrémité de l'Île-de-France. Et je crois que le statut, nous en proposons l'évolution. Notamment en faisant de l'hôpital un établissement public de santé, avec une vraie autonomie, un vrai directeur, le rôle du président de la commission médicale d'établissement, et une transformation du conseil d'administration au conseil de surveillance. C'est un vrai changement. Mais moi, je fais confiance aussi aux élus du territoire pour être en capacité de travailler ensemble, comme ils le font au plan communal. Je crois qu'il ne faut qu'on instruise de procès contre personne. Nous avons besoin des élus, nous avons besoin de l'éclairage des usagers, du personnel médical, et puis aussi, et ce sera le rôle de l'Agence régionale de santé, de mettre tout ça en musique.
Alors Pierre, vous interrogiez Gérard Larcher, il vous a répondu. Martin Malvy voulait aussi apporter une réponse.
Oui, je pense que en matière de sécurité, lorsque le rapport Larcher rappelle, par exemple, que ou lorsque des praticiens rappellent que un chirurgien qui effectue moins de 10, 15 ou 20 opérations de cancer de la prostate ou du sein par an doit arrêter et c'est le plan santé, mon association ne l'a pas contesté, nous le reconnaissons volontiers. Mais nous avons besoin d'urgence sur le territoire,
bien sûr.
Nous avons besoin de services de chirurgie, nous avons besoin de pouvoir admettre des personnes qui n'ont pas à faire, ne peuvent pas faire des dizaines, des centaines de kilomètres, je dis bien des centaines parfois, ou des personnes qui peuvent être traitées chez elles, près de chez elles, plutôt que loin. Ce que je lis parfois est assez effrayant dans les commentaires des uns et des autres. Quand je lis qu'on pourrait utiliser les cars de transport scolaire, Monsieur Larcher, je l'ai lu sous la plume d'un éminent chirurgien, d'utiliser les cars de transport scolaire pour ramener les malades à l'hôpital départemental ou presque, j'ai le poil qui se hérisse. Donc il y a effectivement un danger très fort, et si, comme Monsieur Larcher préconise, on donne au directeur de l'hôpital, par rapport au maire ou au président du conseil d'administration, un pouvoir renforcé, et si on a des territoires, des communautés territoires hospitalières, avec un hôpital départemental, par exemple, et 3 ou 4 ou 5 établissements autour, on sait très bien que le directeur de l'hôpital principal ramènera progressivement, pour des raisons budgétaires, tous les services sur son centre unique. Donc, attention au risque que fait courir ce rapport dans sa mise en œuvre. Je pense qu'il faudra que dans les agences de santé, les élus soient représentés, ils soient présents, et il faudra et il faut... que dans la détermination des communautés territoriales hospitalières, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, il faut qu'il y ait un débat local, une organisation locale. Tout ça ne peut pas se décider à Paris, car la France est très diverse.
Vous êtes d'accord
avec
ça?
On ne peut pas parler de communautés de 200 000 habitants. Ça voudrait dire un hôpital par département.
Monsieur Larcher.
Tellement d'accord que je pense que l'avenir de l'hôpital local de Vimoutiers dans l'Orne, qui n'a aujourd'hui plus de médecins en permanence, ne peut pas se décider à Paris, et qu'il doit se décider au niveau de la région Basse-Normandie. Je prends cet exemple parce que j'ai été interpellé directement lors du débat en région sur ce sujet. Et ça, ça parle concret aux gens. Et donc, je mesure bien, Président Malvy, le risque permanent de l'hospitalocentrisme. Mais dans notre rapport, les commentaires sont libres. Nous sommes particulièrement attentifs à un certain nombre aussi d'expériences très positives, d'avoir des plateaux techniques qui servent à la chirurgie programmée avec des équipes programmées. Ce dont nous parlons, c'est de la chirurgie aussi de grande urgence ou très complexe, dont vous savez bien qu'elle nécessite parfois des moyens techniques très élevés et des équipes permanentes 24 heures sur 24.
Hélène Cardin, je vous laisse la dernière minute, il nous en reste une.
Une drôle. Votre rapport était très attendu, Gérard Larcher, il n'a pas soulevé de protestations énormes, vous avez eu de la chance, si je puis dire, parce que la démographie médicale est en baisse constante, c'est ça qui vous a beaucoup aidé. Il faut bien s'entendre à partir du moment où il n'y a plus beaucoup de médecins.
Je crois, Hélène Cardin, qu'il y a une prise de conscience de part et d'autre, que nous avons un système de santé de qualité, mais qu'il est à la croisée des chemins. Démographie médicale, technique, progrès médical, et en même temps, j'allais dire, des conditions de sécurité qu'il faut construire. Alors, je pense qu'on peut conjuguer qualité et égalité sur le territoire. C'était la commande du président de la République. J'allais dire, nous avons essayé, et maintenant tout sera dans le débat. Il appartient au gouvernement et au Parlement. Eh bien, de conduire maintenant cette réforme.
Et avant ce débat, pour ceux qui voudraient prolonger un peu ce sujet, notamment celui de l'hôpital, je signale que sous la plume d'Hélène Cardin et d'Hervé Réquillard, Ma Santé Demain, les réponses de 11 décideurs. Alors, sur l'hôpital, sur l'automédication, sur le système de santé, sur le médicament.
Ce que nous avons
qu'on a abordé ce soir.